Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
ABS à votre santé. La santé autrement tous les jours entre midi et 13h sur Beurre FM. Et nous allons parler de naturopathie aujourd'hui avec l'équipe de l'Institut européen d'études et de recherche en thérapie holistique. Azaïs Kalsi, vous êtes le bienvenu.
Bonjour Philippe.
Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous aussi et aux auditeurs.
Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes habillé comme un ministre en visite officielle à Paris.
C'était pour vous.
Bon, ça, je suis tout à fait flatté, je vous crois qu'à moitié.
Mais si, c'est pour vous, c'est pour vous.
Non, vous avez,
En fait, c'est la nouvelle année, c'est un renouveau, même pour l'Institut. Donc,
c'est-à-dire quoi? Vous avez décidé de vous mettre en costume tous les jours?
Ça veut dire tous les jours, je me mettrai en costume, et puis j'éviterai le short, et puis...
Le petit costume cintré, vous avez vu ça un petit
exactement.
Peu, comme les Jones. Bon, elle est toujours Jones et bien alignée dans ses intelligences. Karima,
oui.
Comment ça va?
Ça va très bien. Bonjour à vous, Philippe. Meilleurs vœux aux auditeurs et plein de belles choses.
Bon, vous êtes
de
toujours
belles
belle.
Belles réalisations.
Toujours,
oh, bah, c'est gentil.
Toujours belle, bien habillée. Vous ne trouvez pas que Azaïs, c'est quand même.
Ah oui, oui, là, c'est autre chose.
En fait, je ne pouvais me présenter face à Karima si je ne suis pas aussi.
Mais on vous a dit que c'est de la radio qu'on faisait, Azaïs.
C'est vrai que personne ne me voit. Mais Karima me voit, Bikrim me voit, Fatiha me voit, Sandy me voit. Et vous me voyez.
Bien, Fatiha Belhabib est avec nous. Bienvenue, meilleurs vœux.
Merci, bonjour, meilleurs vœux à tous.
Bien, vous êtes aussi toujours sublime, mais vous ne trouvez pas qu'Azaïs.
Merci. Oh là là, c'est on a bien fait de venir hein, aujourd'hui.
Non, on n'a tellement pas l'habitude de le voir comme ça, c'est pour
oui,
ça.
J'espère que vous allez immortaliser le moment en prenant une photo.
Ouais. Oui.
Bon, heureusement qu'il y avait son nom avec le. Sur le badge.
Sur le badge.
Ah non, je l'avais pas reconnu. Bien, Sandy, nouvelle élève de l'Institut européen d'études et de recherche en thérapie holistique. Nouvelle naturopathe, alors.
Oui, c'est ça. Bonjour à tous.
Bienvenue, vous nous expliquerez qu'est-ce qui vous a poussé à devenir naturopathe. Et puis, monsieur Ounou, qui est là, tranquillement, comment allez-vous?
Bonjour Philippe, bonjour à tous, meilleurs voeux à tout le monde.
Bien, ça fait plaisir de vous avoir dans le dos.
Oui.
De côté, je vais avoir un torticolis aujourd'hui. Mais il fallait que tout le monde rentre dans le studio.
Je vais me mettre en face.
Bon, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est que la naturopathie? On dit d'ailleurs naturopathie ou naturothérapie? Vous battez pas.
Alors, il y a une différence entre les deux.
Oui.
Le terme naturopathie est exclusivement réservé aux personnes qui n'ont pas le titre de docteur. Et on dit naturothérapeute pour les personnes qui sont médecins, ou biologistes, ou pharmaciens, ou en titre de docteur.
D'accord.
Et ceux qui sont naturopathes et ceux qui n'ont pas en fait ce titre-là, et donc on dit qu'ils sont naturopathes.
Bien. Voilà. Donc en France,
ça, c'est officiel, ouais. Au niveau juridique, c'est comme ça que ça se passe.
Ah oui, mais c'est important finalement. La
terminologie est là.
Ouais, le titre est important. Souvent, on a beaucoup d'auditeurs qui disent voilà, comment est-ce qu'on rencontre un bon et comment trouver un bon naturopathe et où est-ce qu'on le trouve d'ailleurs.
Où est-ce qu'on trouve?
Est-ce qu'il y a un annuaire en France qui recense des naturopathes déjà diplômés?
Oui, chaque école de formation digne de ce nom crée un annuaire qui correspond en fait à une liste d'étudiants qu'il a formés. Donc dans le cadre de l'IRTH, normalement il sort après lundi, vous aurez la liste des nouveaux naturopathes que nous voulons former qui ont été donc certifiés mais aussi accrédités. Donc là aussi il y a une terminologie importante à connaître. La notion de certification veut dire quelque chose et la notion d'accréditation veut dire autre chose. Donc dans le cadre des étudiants que nous avons certifiés et accrédités il y a maintenant presque un mois, moins d'un mois, ils sont aussi accrédités. Et c'est parce que l'école de formation a en fait acquis de par toute une démarche administrative depuis maintenant 4 ans l'accréditation pour pouvoir en fait donner des diplômes qui sont en fait à dimension non plus nationale mais européenne, mais qui correspondent à un programme et un tronc commun validé par la Commission européenne.
Fatia, vous venez du milieu médical déjà.
Oui.
Qui est infirmière.
C'est ça.
D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, voilà, maintenant je vais me former à la naturopathie? Qu'est-ce qui vous manquait à votre formation et qu'est-ce que vous vouliez de plus?
Eh bien, justement, je me sentais limitée dans le soin. Et moi, j'ai été, il faut savoir que j'ai été élevée quand même par une maman qui m'a beaucoup appris en termes de soins naturels. Donc on se soignait quasiment que naturellement à la maison. Et du coup, ça a été une remise en question lors de mon exercice d'infirmière. Il y a eu beaucoup de questionnements, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des autre chose que les médicaments chimiques, etc. On n'a malheureusement pas accès à beaucoup d'informations et à beaucoup de prise en charge naturelle.
Mais votre maman, son savoir, elle le tenait d'où ? Elle n'est pas allée à l'école de naturopathie. Ça venait d'où ? Mère, de sa curiosité, d'un bon sens peut-être ?
C'est ça. Enfin, beaucoup, ça s'est transmis de génération en génération. Hein. Et il faut savoir qu'en naturopathie, justement, c'est d'abord un art et c'est une science. Aujourd'hui, on peut regrouper toutes les médecines traditionnelles qui datent de 3000, 5000 ans. On peut les étayer avec des bases scientifiques. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est très intéressant d'aller voir ailleurs ce qui se passe en termes de soins, de bien-être, de santé. C'est bien de s'ouvrir à d'autres choses.
Mais est-ce que quand vous étiez enfant, vous posiez les questions à votre mère, ou même plus tard, ou pas du tout, ou ça vous paraissait normal et vous avez, vous avez zappé le fait de lui demander ?
Mais en fait, j'ai été élevée comme ça, donc je ne me posais pas trop de questions. Et puis, quand j'ai fait mes études d'infirmière, donc j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses déjà qu'elle m'avait apprises, que je retrouvais un petit peu via des intervenants quand même qui étaient médecins, qui était dans le domaine médical. Et c'est après coup, en fait, que j'ai pesé le pour et le contre. Donc, en tant qu'infirmière, je n'étais pas spécialement attirée par tout ce qui est médicament. Je n'aimais pas trop ça. Voilà, je ne me soignais pas beaucoup avec des médicaments chimiques. Je n'étais pas attirée par
donc
ça.
Donc, vous tressez quand même dans les habitudes que vous avez transmises de votre mère.
Exactement.
Mais c'est-à-dire quoi ? Chez vous, un rhume, on le traitait comment ?
Eh bien, on se repose. On prend des plantes, on fait des tisanes, des décoctions, on se sert d'huile, on se sert de vinaigre, sert...
Madame Vinaigre.
Oui.
J'ai oublié.
Le vinaigre de pomme.
Vous savez que le médic... À cause de vous, j'ai passé quelques jours un peu affreux.
Ah oui, pourquoi ?
Avec le vinaigre de pomme, je veux dire, c'est raide. Hein.
Vous en avez abusé ?
Non, j'ai pas abusé, j'ai fait ma cure.
D'accord.
C'est pas bon, moi.
Oui, on s'habitue au goût. Il faut le diluer plus, alors.
Oui, c'est parce qu'au goût, c'est quand même un peu...
Il faut le diluer plus. Donc voilà, que des choses très simples et très naturelles qui quand même nous ont bien servi, parce qu'on n'était pas beaucoup malades. Hein. Finalement, on n'était pas beaucoup malades.
Parce que bonne éducation, bonne alimentation.
Voilà, c'est ça.
Oui, et ce qu'on fait, si vous permettez, Philippe...
Oui, allez-y, Karima, parce que vous vous ennuyez, là. Je vois, vous êtes en train de gribouiller. Vous avez envie de parler.
Vous me connaissez bien. Hein.
Dites-nous.
Je vous dis.
Oui.
En fait, ce qui se passe, avec ce que tu es en train de décrire, Fatia, c'est que, voilà, il y a un savoir qui a été transmis de mère en fille, un savoir ancestral qui a été donc transmis, qui est dans ses gènes et qui est... avec quoi elle vit. Ce qu'a fait l'IRTH, en fait, en ayant Fatia, qui est diplômée maintenant, accréditée, certifiée, je vais utiliser tous les mots pour comme ça je suis bien dans la législation, d'accord ? Elle vient asseoir, en fait, sur ce qu'elle connaît déjà, sur ce qu'elle a appris, ce qui a été transmis par sa mère et par sa grand-mère et par toutes les femmes probablement de sa famille, vient asseoir quoi ? Vient mettre une base scientifique. C'est-à-dire qu'on vient étayer, expliquer, voilà, quand je vais utiliser cette huile, voilà ce qui va se passer au niveau chimique, au niveau biologique et au niveau émotionnel. Quand je vais utiliser cette décoction, voilà l'impact que ça va avoir sur mes organes. Là, maintenant, c'est en fait, sur ce savoir ancestral, on vient mettre quoi ? On vient mettre de la science, on vient de mettre des protocoles, on vient mettre des procédures à suivre pour que ce soit efficace et pour pouvoir finalement être ce naturopathe, en fait, qui des nouvelles générations, qui va utiliser, qui intègre les apprentissages anciens et qui les transcende. Voilà nous comment on se caractérise.
Et on enseigne, pour prolonger ce que tu dis, les limites de l'approche de la tradition. Parce que puisqu'on sait, tu te rappelles quand on était avec Pierre Francôme ici, quand on découvre en fait l'usage d'une plante par les tradis praticiens, on essaye de voir ce que la science réellement est capable d'apporter. Mmh. Et ça, c'est très important. Après, quand on fait toute une analyse chimique pour connaître leur activité thérapeutique à chacune de ces molécules, mais on connaît aussi ce que la science peut réellement mettre en place. Mmh. Grâce à l'apport du tradit praticien. De la même façon, le naturopathe, grâce à cette formation qui est vraiment assez, qui est quand même assez axée au niveau scientifique, elle connaît le thérapeute maintenant connaît ses limites et c'est ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit surtout pas faire.
Qu'est-ce que vous allez faire donc maintenant que vous êtes naturopathe? Vous allez vous installer comme naturopathe ou
Alors je vais me faire un plaisir de soigner les gens autrement. Voilà, en alliant mon expérience d'infirmière et tout ce que j'ai pu apprendre en tant qu'infirmière et ce que je viens d'apprendre, avec les autres techniques de soins, avec la naturopathie.
Alors, ce n'est pas incompatible d'ailleurs, hein. Les
non,
deux approches ne sont pas du tout incompatibles. Ce qui est bien, c'est de savoir comment on peut les rendre compatibles, voilà, sans bousiller les protocoles ou sans interaction médicamenteuse ou avec les plantes.
Voilà, tout à fait.
Donc ça, c'est important d'avoir finalement le double curseur. Mais vous allez être un infirmière libérale, comment vous allez faire?
Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé de ce que je vais faire.
Vous avez votre diplôme et puis...
Non, je vais... Disons que je vais pratiquer en tant qu'infirmière naturopathe. Mmh. Voilà.
Il y en a beaucoup, Azaïs, des infirmières naturopathes? J'en ai pas vu beaucoup encore.
Moi aussi, je n'en ai pas vu beaucoup. Ouais. Non, je n'ai pas vu beaucoup d'un. À ma connaissance, à part Fatiha que je connais, mais je n'en connais pas d'autres.
D'où la nouvelle génération de thérapeutes, de naturopathes. Donc c'est allier la naturopathie, quel que soit son corps de métier. Quel que soit, par exemple, c'est Sandy qui est ethnologue à la base et qui fait de la naturopathie maintenant. Voilà. Donc c'est...
Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous intéresser à la naturopathie, Sandy?
Alors... Effectivement, j'ai un cursus universitaire plutôt dans les sciences humaines. Donc, je me suis toujours intéressée à la sociologie, la psychologie, donc pour aller jusqu'à une maîtrise d'ethnologie. Et après, en fait, au fur et à mesure des années, je n'étais pas du tout formée au niveau médical. En me rendant compte autour de moi qu'en fait, on va chez le médecin sans arrêt. Et donc, moi, la première, mes proches, les gens, et en général, on voit les gens revenir tout le temps avec des médicaments et qui ne sont pas guéris, en fait. Et un jour, je me suis dit, mais comment c'est possible de ne pas guérir avec des médicaments? En fait, j'ai un peu cherché, j'ai essayé de comprendre. Mmh. Et je me suis dit, il doit y avoir des moyens de se soigner autrement. J'ai pas envie de prendre des médicaments à vie. Pour
pas aller mieux.
Un problème, exactement, pour pas aller mieux et prendre finalement des médicaments de plus en plus forts qui ont des effets secondaires pas cool du tout. Donc la naturopathie, quand j'ai découvert la naturopathie, c'était assez une révélation pour moi. L'alimentation, les exercices physiques et surtout aussi la psychologie auxquelles je me suis souvent intéressée, plus toutes les autres techniques. Et en fait, c'est une hygiène de vie, c'est une façon de penser qui finalement s'accorde vraiment avec ce que j'ai toujours pensé. Et de voir que ça existait déjà dans une école, qu'on pouvait nous l'enseigner et qu'on pouvait l'appliquer pour nous et après éventuellement accompagner des gens. Donc je me suis lancée.
Ça correspondait à vos valeurs, c'est ça que vous voulez dire?
Exactement.
Oui. Vers la façon de vivre que vous vouliez adopter, en fait.
Oui, c'est une façon de vivre que j'avais envie d'adopter, que je prends le temps d'adopter et qui, pour moi, n'est jamais terminée, en fait.
Il faut aller à l'école pour l'apprendre ou on peut l'apprendre sans aller à l'école? Quelle est la différence, finalement, des apprentissages qu'on fait tout seul et d'un apprentissage qu'on fait dans une école?
Alors, je pense effectivement qu'on peut apprendre beaucoup de choses seul. Maintenant, le fait de pouvoir aller dans une école pour pouvoir, comme l'a dit tout à l'heure Azaïs et Karima, voir les limites en fait des approches naturelles, parce qu'il y a des effets secondaires aussi. Les plantes, c'est naturel, mais il faut faire très attention quand même. Donc, de pouvoir apprendre toutes ces limites, de pouvoir apprendre aussi à les appliquer. On les apprend soi-même dans la vie ou bien avec des livres ou des vidéos, mais il manque des choses. Mmh. On a besoin d'un accompagnement. Donc, voilà, je regrette pas de m'être fait accompagner et du coup, je me sens plus... j'ai plus d'assurance par rapport à la naturopathie, évidemment.
Bien, on parle de la naturopathie ce matin. On va essayer de comprendre ce que c'est qu'un naturopathe maintenant. Quel est son rôle? Comment ça se passe, une consultation en naturopathie? Si vous avez des questions, rejoignez la conversation au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Avec la nouvelle génération des naturopathes ce matin autour d'Azaïs Kalsi, qui est directeur pédagogique et scientifique de l'Institut européen d'études et de recherche en thérapie holistique. Nous avons Karima Chedibaou. Vous enseignez, vous, à l'IURTH?
Oui, absolument.
Qu'est-ce que vous enseignez, Karima?
Alors moi, j'enseigne toute la partie en fait, psycho-émotionnelle, énergétique, et notamment la psychologie, les différents courants de psychologie, les différentes techniques aussi en thérapie brève, notamment la PNL, que ce soit la PNL ou la PNL, l'énéagramme, tous les profils de personnalité, toutes les études en fait, donc au niveau de tous les courants de psychothérapie et de thérapie brève. Voilà.
Si tu le permets, je vais faire une petite parenthèse. Tout d'abord, Karima est la directrice pédagogique de l'école. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui concerne la partie formation et surtout la validation du programme. Ça, c'est important. Et donc, dans sa fonction, c'est dans la naturopathie, il y a dix grandes techniques, dont l'une des techniques fondamentales est la technique qui s'appelle la psychologie ou l'approche psycho-émotionnelle. Sa tâche, qui est quand même assez rude, c'est de faire en sorte que l'étudiant puisse aborder l'approche psycho-émotionnelle par ses différents outils, ses multiples outils, mais surtout occasionner en lui une forme de transformation tout au long de sa formation pour devenir thérapeute.
Bien, alors, autour de nous, donc, quelques membres de la nouvelle promotion. Nous avons Sandy, qu'on a entendu tout à l'heure, Fatia qui est là, et la petite nouvelle qui s'était perdue, qui est Myriam. Bienvenue Myriam.
Merci.
Bien, alors vous, qu'est-ce qui vous a poussé et dirigé vers la naturothérapie?
Qu'est-ce qui m'a dirigé? C'est une réflexion qui est née il y a quelques années déjà. Donc, je m'intéressais à tout ce qui est naturel. Et... le hasard, on va dire, qui a bien fait les choses. Je me suis retrouvée en France et je me suis retrouvée dans ce bel institut. Et ça me convenait entièrement par rapport à ma philosophie de vie. Donc je me suis retrouvée, ça m'a aidée moi énormément d'abord, et puis mon entourage.
En quoi, par exemple, ça vous a aidé?
En quoi? Donc c'est un travail personnel. Donc j'ai carrément changé de mode de vie, de philosophie de vie, à la façon de voir les choses, m'intéresser plus profondément à cette science qui englobe non seulement les notions de médecine, mais également toute autre notion, que ce soit en physique, en chimie, en philosophie. Donc c'est vraiment une approche très intégrative et ça m'a premièrement sur ma santé, deuxièmement sur mon ouverture d'esprit. Donc ça m'a permis vraiment d'être ouverte, moi qui viens d'un milieu business, corporate, etc. Donc ça m'a permis vraiment d'être ouverte sur d'autres disciplines.
Bien. Il y a que des femmes d'ailleurs, c'est normal. Les hommes ne s'intéressent pas, on n'a pas une génération de naturopathes. Non, je sais pas. Est-ce que ça veut dire que les femmes sont plus facilement sensibles à...
En fait, pour pouvoir répondre à cette, il y a en fait parmi les diplômés des hommes, il y en a un qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il est vrai que par rapport à ce que tu dis, Philippe, c'est important parce que on parle de transformation. Les hommes, et je pense que Karima va peut-être...
Les hommes sont plus résistants,
mais c'est une réalité. Et dans le cadre de la transformation de l'être, les femmes sont plus... elles y vont, elles souhaitent y aller, elles souhaitent occasionner une forme de changement de leur personne, mais aussi de leur entourage. L'homme reste en fait cramponné dans ses habitudes,
dans ses certitudes,
etc. Donc voilà.
Mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi
Bien sûr,
là on a affaire aux soins. On a affaire aux soins, donc généralement, vous voyez, même que ce soit pas qu'au niveau de la thérapie ou de la naturopathie, mais même au niveau les infirmières, les sages-femmes, les médecins. Donc on trouve beaucoup de femmes parce que c'est un métier vers lequel en fait on est tourné vers l'autre et on va apporter de l'aide. Non, je suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas tournés vers les autres et qu'ils n'aident pas. C'est simplement c'est un métier ou c'est plutôt une approche qui relève en fait de plus de caractéristiques féminines que masculines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plupart des hommes qu'on a eus au sein de l'Institut et qu'on forme aussi ont un travail en plus, c'est-à-dire à développer un peu plus leur côté féminin, leur part de féminité, c'est-à-dire le regard de l'autre, le soutien, l'empathie, cette bienveillance, tout ça, ce sont des caractéristiques féminines. Donc les femmes l'ont en général, et là je vais faire une généralisation, d'accord, que j'assume totalement, donc cette part qui est déjà assez développée, et il y a simplement à apporter un peu plus de structure, un peu plus de savoir-faire, et le savoir-être, un certain savoir-être est déjà là, mais bien sûr qu'il y a besoin d'être développé, comme l'a exprimé tout à l'heure Sandy, quand elle parle de sa transformation personnelle. Et comme Mariam vient de le dire aussi, c'est le souci de l'autre, c'est d'apporter du soin autour de moi. Donc ça, généralement, la plupart, vous êtes toutes des mamans ici, presque toutes, des mamans, donc on sait déjà des capacités, des compétences qu'on a déjà. Donc maintenant, bien sûr, il faut mettre un savoir derrière, une éthique, une déontologie, et une manière de voir, et une vision qui soit claire. La vision de cet humain.
La femme donne la vie. Oui. La femme donne la vie, donc elle est beaucoup plus sensible au bien-être, donc le sien, et comme l'ont souligné la plupart, aussi autour, et principalement les enfants. Les enfants.
Pour les hommes, c'est superflu, finalement.
C'est moins important. C'est moins important. Alors que chez la femme, c'est primordial, voire même c'est vital.
Mais oui. On va dire un sens d'écoute plus accentué aussi.
Chez les femmes ?
Chez les femmes. Et je pense qu'il y a aussi le fait que... je vais prendre le parallèle, par exemple, des maçons. Il y a beaucoup d'hommes chez les maçons. Donc, au niveau de la symbolique, il y a effectivement le fait que la femme, elle est dans ce côté protecteur, maternant, etc. Et l'homme, il a un autre rôle, une fonction plus de construction, de survie, d'apporter en fait les besoins nécessaires à la famille, à l'environnement, à la société, etc. Donc en fait, symboliquement, c'est des rôles qui sont différents. Après, on retrouve effectivement toujours des exceptions. Donc effectivement, si on développe plus un côté féminin, les hommes peuvent effectivement faire d'excellents médecins, d'excellents infirmiers, d'excellents naturopathes. Mais il faut déjà aller gratter un petit peu un côté qui est plus enfoui chez eux, alors qu'il est plus naturel chez la femme.
Alors Sandy, comment est-ce que vous définissez la naturopathie à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, aux auditeurs qui nous écoutent, voilà, dire qu'est-ce que c'est précisément ?
Alors, il y a plusieurs définitions de la naturopathie, mais pour être simple et pédagogue, je dirais qu'on utilise souvent le terme éducateur de santé. Ça pourrait être aussi, j'explique, j'accompagne la personne à aller vers une meilleure santé. Donc, en essayant de la connaître le mieux possible suite à un bilan de vitalité, c'est-à-dire un questionnaire très complet qui permet de connaître la personne d'un point de vue physique, ses antécédents, etc., d'un point de vue psychologique, d'un point de vue vital et d'un point de vue spirituel. Ça me permet d'avoir une vision globale de cette personne et du coup de l'aider à adapter, on va dire, son alimentation. Qu'est-ce qu'il y a à changer ? Qu'est-ce qu'il y a à apporter ? À apporter des exercices physiques adaptés à cette personne et éventuellement voir avec elle psychologiquement comment ça va. S'il y a besoin d'aller plus loin, on a des gens vers qui on peut renvoyer. Et en fait, on utilise des techniques aussi naturelles, selon les besoins de la personne. On l'accompagne vers une meilleure santé au quotidien, c'est-à-dire pour qu'elle puisse, à la fin, se gérer elle-même. Et et pallier à pallier à ces problèmes de santé tout doucement, puisqu'il faut être patient. Il faut être patient et que ça devienne en fait une habitude.
Éducateur de santé, c'est bien comme terme. Est-ce que quelqu'un veut préciser ou améliorer la définition, apporter un autre élément? Karima.
Alors tiens. Éducateur de santé dans le sens où, comme l'a expliqué Sandy, c'est-à-dire il y a un accompagnement qui est fait. Éduquer, c'est vraiment expliquer, bien sûr, parce que la personne, elle connaît son corps. Elle connaît son corps et on a tendance à dire, même en psychologie, que la personne est experte dans son problème. Seulement, elle est experte parce que c'est quelque chose avec quoi elle vit, c'est quelque chose avec quoi elle négocie parfois, elle marchande par rapport avec ses douleurs, avec ses sensations, ses expressions, ses actions. Et là, l'éducateur de santé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir mettre de la lumière. De la lumière sur quoi? Sur ce qui ne fonctionne pas, d'accord? Parce que de toute façon, le sujet, lui, sait que ça ne fonctionne pas. Mais on va lui montrer, on va lui donner une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de négocier avec cette maladie, si c'est une maladie, et de dire que déjà, bon, on le dit souvent, on l'a déjà entendu, mais je vais le répéter, le mal qu'il a dit, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qu'il veut m'apprendre. Du coup, ce qui est important, c'est que la partie
maladie,
psychologique...
c'est le mal qui a dit.
C'est le mal qui a dit. Il est en train d'exprimer quelque chose. L'inconscient est en train de nous dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau physiologique, au niveau biologique, et au niveau aussi émotionnel. Et donc, je dois entendre ce message. Ce qu'on apprend en tant qu'éducateur de santé, c'est de dire, il y a un message ici. Écoutons ce message. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne le rejetons pas. Prenons-le, intégrons-le et transcendons-le. C'est-à-dire, on va le dépasser et construire la solution ensemble. C'est-à-dire que nous sommes partenaires, en fait, avec la personne qui vient nous voir. Nous créons les conditions du changement, les conditions de la transformation. Et surtout, ce qui va permettre ça, c'est les conditions d'écoute aussi. Si j'ai mal et que je n'écoute pas, si je n'écoute pas ma douleur, mon corps va m'envoyer un autre message pour me dire, t'as pas écouté cette douleur-là, je t'en envoie une autre. D'accord?
Donc vous dites que les gens sont les meilleurs experts de leur propre douleur, mais il y a des gens qui s'habituent à des douleurs alors qu'ils ne devraient pas.
Oui.
Puis finalement, comme elles sont toujours présentes, ces douleurs, ils disent,
Mais oui, mais ils vont développer en fait quoi?
Je vis avec.
Ils vont développer une flexibilité.
C'est comme les gens qui ont mal au dos.
Oui, ils ont
mal. Par exemple.
Mais parce que la douleur, c'est quoi? La douleur, c'est un signal. C'est une alerte. On m'informe qu'il y a quelque chose. Si j'ai fait beaucoup de jardinage, Philippe, et que je suis restée penchée sur mes fleurs, qu'est-ce qu'on plante là en ce moment? Des fleurs? On ne plante pas de fleurs, je ne sais pas. Bon, plantez mon jardin.
Vous êtes naturopathe, mais vous n'êtes pas jardinière.
Non,
hein,
je ne suis même pas naturopathe, je suis psychothérapeute, Philippe. On plante quelque chose, d'accord?
Bon, on plante quelque chose. Hein,
voilà. Et si
on replante les sapins qui ont été abandonnés.
Si je reste courbée toute la journée, forcément, je vais avoir des douleurs. Ces douleurs, c'est le signal que j'ai fait beaucoup de jardinage et qu'il faut que je me repose. D'accord? Mais si je n'ai pas fait de jardinage, je n'ai rien fait, et que des douleurs se déclenchent, qu'est-ce qui se passe? C'est que peut-être qu'il y a un problème au niveau de ma colonne vertébrale. Enfin, après, je vais laisser les spécialistes parler de ça, n'est-ce pas, les docteurs? Mais voilà, pour vous dire que la personne, elle est experte dans la douleur, dans ce qui lui arrive, et ensuite, elle va développer quoi? Ceux qui vivent avec la douleur et qui restent avec. Parce qu'ils se sont habitués, ils ont développé en fait une espèce d'immunité contre cette douleur.
Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vivent avec des migraines en permanence, ou avec des maux de dos, ou avec des courbatures, ils disent, c'est normal.
Oui.
J'ai mal à la tête, c'est normal.
De toute façon, j'ai ça depuis longtemps, et peut-être qu'on va pas aller, on va traiter le symptôme, mais on va pas traiter la cause. Et quand on dit éducateur de santé, on va chercher en profondeur la cause, comment ça est survenu, et c'est la réponse à quoi, ça? Cette migraine, ce mal de dos, c'est la réponse à quoi? D'accord? Et je vais laisser les spécialistes continuer à parler de...
Oui, j'aimerais juste rajouter quelque chose par rapport à Karima et Sandy. C'est que il faut pas attendre qu'on tombe malade pour aller consulter un naturopathe. On parle d'éducateur, donc on agit vraiment en amont. Et il faut savoir que la santé, ce n'est pas l'absence de la maladie. On peut être malade, on peut avoir des maux qui sont cachés. Et donc la santé, c'est vraiment un état optimal de notre métabolisme. Ce n'est pas l'absence de maladie apparente. Donc il faut pas hésiter d'aller consulter vraiment en amont pour adopter une bonne hygiène de vie. Faut pas en fait.
Donc c'est préventif, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Premièrement, c'est préventif. Premièrement.
Ça, c'est en ça qu'il faut changer les mentalités des gens, parce qu'en général, les gens consultent quand ils ont mal, et il y a même des gens qui consultent quand ils ont très mal. Voilà, oui. Donc vraiment en dernier recours. Donc oui. Effectivement.
Il est vrai que tu l'as bien souligné, Maria, mais je suis très content de voir que vous preniez le relais maintenant. Pour prolonger ce qui est dit, le naturopathe travaille dans le temps et non dans l'instant. Ça, c'est important. Vous précisiez il y a quelques instants d'être à l'écoute, que le consultant soit partie prenante en fait de l'approche thérapeutique. Et nous, on va avec lui, mais vraiment à sa vitesse. S'il est amené en fait à dire je souhaite arrêter là et je reviendrai plus tard, on accepte et on attend. Il reviendra de toute façon, parce que en fait on travaille sur des approches qui sont complexes et profondes, et au fur et à mesure il y a certaines choses qui se réveillent. Donc on respecte en fait ce réveil et on l'accompagne étape par étape. Donc l'éducateur de santé travaille vraiment dans le temps.
Alors je voudrais juste rebondir sur ce qu'a été dit.
Ce sera le mot avant la pub, si vous le voyez. Là, vous êtes...
pub. Non, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à comparer la naturopathie plutôt à l'analyser par rapport à la médecine. Alors que la naturopathie, c'est une science de tous les jours. C'est-à-dire que notre alimentation, les plantes, tout ça, c'est un quotidien qu'on vit à chaque instant. Manger, je veux dire, par exemple, je sais pas, des pommes de terre avec des carottes, eh ben, c'est un médicament. C'est un médicament. On mange.
Attendez. là, parce que là, manger des pommes de terre et des carottes. Non, vous le direz après la pub, parce que là, quand même, je crois qu'il y a des gens qui mangent des pommes de terre et des carottes tous les jours et qui n'avaient pas l'impression de se soigner aussi efficacement. Oui, effectivement. Non, tout à l'heure, il y a trop de suspense là. Il y a énormément de suspense. Les gens veulent savoir en quoi est-ce que cette potée que vous venez préparer est-elle soignante.
Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et Aziz Kalsi, qui est directeur pédagogique et scientifique de l'Institut européen d'études et de recherche en thérapie holistique, est venu avec la nouvelle génération de naturopathes qui viennent d'être diplômés. Ces trois femmes qu'on a avec nous. Nous avons Sandy, Fatia et Myriam avec nous. Karima Chedibaoud est également là avec nous, qu'on retrouvera jeudi prochain. Et Monsieur Oulous nous a interpellés tout à l'heure et nous disait qu'on pouvait se soigner, alors tout à fait simplement, en mangeant des carottes et des pommes de terre.
Alors
j'ai beaucoup fréquenté le chef Voilà, qui me parle de carottes et de pommes de terre, mais alors là, je dois dire que en 25 ans de radio, j'avais jamais entendu ça. Est-ce que vous pouvez être plus explicite ?
Tout à fait, Philippe. Donc je disais effectivement, pour rebondir ce que disait Myriam, que le naturopathe accompagné, c'est un éducateur de santé, un accompagnateur de vie au quotidien, et je disais que pour étayer tout ça, on a tendance à comparer la naturopathie à la médecine traditionnelle. Alors que la naturopathie, dans les anciens temps, ça n'existait pas. Ça faisait partie de la vie de tous les jours.
Vous avez dit ça comme ça tout à l'heure ? J'ai pas du tout ce souvenir. Je me demande si vous n'êtes pas en train de vous rattraper aux branches.
Non, j'en reviens. Je disais donc l'exemple, en mangeant des carottes, c'était des pommes de terre et des petits pois. Et ben
non. Alors avant la pub, il y avait des carottes.
On pouvait se soigner. Donc parce que dans l'alimentation, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a tout un tas de choses, des vitamines, des oligoéléments, etc., dont le corps a besoin. Et donc voilà. Donc c'était pour dire que l'naturopathie, c'était une vie de tous les jours et juste de la naissance jusqu'à le départ vers les cieux.
Vous avez fait plouf là. Moi, je suis déçu par votre effet.
Non.
J'ai cru que ça avait des vertus. L'alliance pomme de terre carotte. J'ai cru que ça soignait quelque chose.
Oui, sans doute. Bon, on va demander à M. Kalsi. Il est nutritionniste.
Et on passe à son voisin.
Non. On passe pas à son voisin.
Mais ce que je voulais vous dire.
Patate chaude.
Voilà, patate chaude.
C'était pour dire que l'naturopathie, c'était une science de tous les jours et qu'il ne fallait pas attendre d'être malade ou de se sentir mal pour aller voir un naturopathe. Bien au contraire, je dirais que c'est encore plus efficace de le voir, comme disait Myriam, en amont pour obtenir, ou plutôt avoir des conseils sur un mode de vie quotidien qui permettra de garder sa santé le plus longtemps possible.
Bon, vous retombez sur vos pieds, voilà. Puisque ces joutes culinaires ont inspiré tout le monde, quel est le plat qu'on donne à l'accouché pour que... Bah si, puisque j'ai entendu qu'il y avait des secrets de grand-mère qui se partageaient hors antenne. Et j'aimerais que tout le monde pouvait. Qu'est-ce qu'on donne à l'accouché pour qu'elle ait du lait?
Pour la montée de lait. Alors, oui. Je suis...
Vous avez dit, ça déborde.
Oui, donc... c'est bon, mais ça, vous pouvez le garder.
Ah pardon, fallait pas le dire. On coupera au montage.
Non.
Bon, c'est quoi votre truc?
C'est quelque chose que j'ai pratiqué moi-même, donc bon, ma maman, et qu'elle nous écoute, ma maman, et que j'embrasse très très fort, maman, papa et mes sœurs, qu'on a eu. Maman s'occupe très bien des accouchés durant la période de dans notre famille, quand on vient d'avoir son bébé, la mise au monde du bébé, eh bien, on ne rentre pas chez nous, on va chez maman. On va chez maman et maman s'occupe de nous. Et maman nous prépare des plats. Des plats spécifiques pour la jeune accouchée, pour qu'il y ait une montée de lait. Alors le plat, il y a deux sortes de, c'est comme des soupes en fait. Et alors il y en a une, je serais incapable de la traduire, donc je vais.
Mais dites-la comme ça vous vient, Karima.
Je vais le dire en arabe. Ouais. On a le berkouch. Le berkouch, c'est quoi? C'est de la semoule en fait qui est travaillée, des petites boules en fait. Ça fait comme des toutes petites billes. Et dedans, à l'intérieur, donc il y a des légumineux, il y a des épices spécifiques qui vont aider en fait la femme dans cette période très difficile où le corps est en train de reprendre en fait de chaque organe qui reprend sa place. Les contractions continuent. Donc la montée de lait, il faut nourrir son bébé. Donc du coup, qui va stimuler toute la lactation. Vous avez donc le berkouch et vous avez aussi la soupe de blé d'orge. De l'orge plutôt, pas du blé. L'orge avec du lait et avec du cumin et avec du thym, c'est juste une... Et de l'anis aussi, c'est excellent. Et donc du coup, Mariam m'a rajouté l'anis. Et donc du coup, on a un régime spécial avec maman à boire. Et puis du coup, le bébé est rassasié, maman se sent bien. Elle est en train de se libérer de tout ce qui est au niveau hormonal. Donc ça crée un espèce de d'équilibre aussi. Mmh. Voilà, et donc voilà la recette de grand-mère que je partageais, enfin de ma mère.
Très utile.
Voilà, très très utile pour les jeunes accouchés.
Vous avez dit tout à l'heure que la naturopathie, c'est pas de la médecine traditionnelle. Quels sont les outils dont dispose le thérapeute ? Azaïs, tiens.
Moi, je ne sais pas. On a formé des personnes.
Ah oui, d'accord. Non, vous avez raison. Tiens, Myriam, là.
Alors, pour les citer toutes aujourd'hui, on va voir pour la journée, on ne va pas en finir. Donc, on va dire qu'il y a 10 grandes techniques, il y a plusieurs techniques. Et au sein de ces techniques-là, il y a une multitude d'outils qui sont, on va dire que c'est vraiment, le nombre est illimité. Donc, le thérapeute, c'est selon ses affinités, donc on peut avoir des expertises. Là, on est tous là. Je crois que chacun de nous a certaines affinité par rapport à certains outils et certaines expertises, et donc on peut aussi utiliser un outil en fonction du patient, du consultant qu'on a en face. Donc pas forcément tous les outils vont marcher sur les mêmes personnes, et pas forcément tous les naturopathes vont maîtriser tous les outils.
On va prendre un exemple, parce que souvent les gens qui ne connaissent pas la naturopathie, ils disent ben voilà, t'es malade, tu vas aller voir le naturopathe, il donne une tisane avec des plantes et voilà, t'es soigné.
Alors, il y a juste une chose importante par rapport à ce que vous dites, Philippe. Tout le monde aujourd'hui peut se dire naturopathe.
C'est même très à la mode. J'ai envie de vous dire
qu'aujourd'hui,
personne
peut faire une formation en aromathérapie de 3 jours et elle se dit je suis naturopathe et je fais aussi de l'aromathérapie. Une personne peut faire une formation en quelques jours de fleurs de Bac et dit je suis conseiller en fleurs de Bac et naturopathe. Là aussi, il faut faire très attention. La confusion, elle est de mise. Et aujourd'hui, c'est porter atteinte à la profession. Que beaucoup souhaitent que ça devienne une profession officielle et reconnue. Donc là, il y a une grande différence. Vous avez ici des personnes formées depuis 3 ans, qui ont fait plus de 3000 heures de formation, avec des voyages, etc. Donc ils sont à même, eux aussi, et ils ont les outils et les clés pour pouvoir identifier les personnes bien formées avec qui ils vont pouvoir travailler et des personnes pas bien formées du tout. Alors par rapport aux techniques et aux outils, donc comme vient de le dire Mariam, c'est qu'il y a une infinité d'outils, mais dans le sens où chaque branche a avec elle des outils qu'elle va utiliser. Les domaines de prédilection, et il est vrai que les domaines de prédilection des 3 personnes qu'on a en face de nous sont vraiment différentes. On a les affinités. Et
c'est... Alors par exemple, Sandy, de quoi êtes-vous la plus proche?
Je pense qu'Azaïs veut parler du fait que j'ai fait des études d'ethnologie. Moi, j'ai fait un mémoire sur la mission humanitaire. Voilà, je suis proche dans l'écoute de l'autre, la compréhension de sa culture et voilà, et les moyens d'adapter des outils ou des techniques par rapport à ça. Maintenant, j'utilise les techniques qu'on a apprises pendant la formation. Et voilà, j'aimerais me former encore plus en aromathérapie holistique.
D'accord. Fatia,
vous. Je peux rajouter juste avant, parce que Sandy, je l'ai vu pratiquer en mission humanitaire au Maroc l'année dernière à Midelt. Je t'ai vu beaucoup pratiquer aussi l'iridologie, c'est-à-dire l'observation de l'iris, de regarder ce qui se passe dans l'œil, d'avoir des informations par rapport à la problématique du consultant, tout en garde. C'est-à-dire d'enrichir, en fait. Elle est très à l'écoute, elle est très, on va dire, branchée à l'extérieur, on appelle ça comme ça, pour vraiment prendre tout ce qui est important et connaître le plus intimement le consultant. Moi, ça, je l'ai observé chez toi et je trouve ça magnifique parce que du coup, pour construire tes stratégies thérapeutiques, c'est top. Je laisse Fatia.
Fatia, de quoi êtes-vous la plus proche, vous, par exemple, comme
Alors,
outil.
Moi, j'aime beaucoup la kinésiologie.
Alors, qu'est-ce qu'Esaco ?
Alors, la kinésiologie, c'est une approche qui consiste en fait en tests musculaires et voilà, interpréter les réponses et rétablir le corps, voilà, les mouvements. Donc ça joue sur les émotions parce que toutes les émotions sont associées, sont incrustées dans notre corps.
Il y a une batterie de tests, voilà. En fait, il y a des points qui sont répertoriés.
Il y a le brain gym, après ça a été...
Ça, vous l'avez appris à l'école ?
Oui, tout à fait. Oui.
Vous, Myriam, de quoi êtes-vous la plus proche ?
Alors, je me suis observée pendant la mission humanitaire.
Vous vous observez, vous ?
Oui.
C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites le tour de vous-même ? Expliquez-moi.
Elle a jeté un œil derrière elle.
Vous êtes observée. Alors, allez-y.
Elle avait un miroir, en fait.
Exactement.
360 degrés.
Oui, il le faut bien. Oui, je me suis observée. C'est vrai que pendant la mission humanitaire, on est dedans. On ne réfléchit pas trop par rapport à l'action. Mais dès qu'on finit, en fait, notre consultation... sur le champ, en fait, on se remet en question par rapport à ce qu'on a appliqué, ce qu'on n'a pas appliqué, comment on allait réagir autrement si on avait cette situation-là dans un autre contexte. Donc oui, je me suis observée et donc rapidement, le premier outil, c'est vrai que j'ai de l'écoute par rapport aux autres personnes. J'applique aussi l'iridologie pour compléter. Je trouve que c'est un très bon outil de diagnostic qui complète en fait notre observation. Et j'aime aussi les plantes. Également tout ce qui est en relation avec la médecine chinoise, l'acupuncture, notamment la kinésiologie. Donc, grosso modo, en fait, ce sont mes outils que j'aime bien pratiquer. Voilà. Les thérapies brèves également, que j'aimerais bien développer par la suite.
Notamment la thérapie des schémas.
Exactement. Exactement.
Au niveau cognitif et comportemental.
C'est quoi la thérapie des schémas ?
La thérapie des schémas, c'est-à-dire c'est d'observer à travers les actes, les comportements d'une personne, quel est le schéma cognitif qui sous-tend ce comportement. Par exemple, il y a donc les croyances, les convictions personnelles, tout ce qui est les schémas en termes de, au niveau émotionnel, par exemple le schéma d'abandon, le schéma de carence affective, le schéma de dépendance, le schéma de perfection ou d'imperfection. Donc c'est une thérapie développée par Jeffrey Jung, notamment si ça vous intéresse, un excellent bouquin qui s'appelle « Je réinvente ma vie » et du coup, on ne peut pas fonctionner sans schéma. Quel que soit le comportement, quelle que soit l'attitude, le contexte, nous avons un schéma qui sous-tend ce comportement. Et donc, c'est l'étude de ces comportements-là qui aide à comprendre en fait la personne et à l'aider à se débloquer et à sortir d'une situation compliquée. Voilà, si je vais vite.
Oui, puis vous serez là la semaine prochaine. Donc, laissez la parole aux autres, Karima.
D'accord.
En parlant de rendez-vous que donne l'IERTH Azaïs Kalsi, donc vous nous avez présenté Pierre Francom, qui est un des pionniers des huiles essentielles en France, qui détient énormément de savoir. Et donc, il va faire une conférence à l'IERTH, donc c'est le 18 février prochain.
Alors, le 18 février prochain, donc juste pour annoncer, moi officiellement maintenant au niveau de l'Institut, je m'occupe plus de la recherche. Donc je suis plutôt le directeur de recherche et le directeur pédagogique, c'est Karima. Donc là vraiment, je délègue tout. C'est vraiment Karima qui s'occupe de la pédagogie au niveau de l'IRTH. Et moi, je reviens à mon domaine de prédilection que j'aime énormément, c'est la recherche. Donc le partenariat avec Pierre Francom, on va faire beaucoup de choses ensemble, dont justement parler en fait le 18 février d'un séminaire spécial sur le cancer et l'aromathérapie. Donc là, vraiment, venez nombreux pour celles et ceux qui sont intéressés. Vous avez tout sur le site de l'Institut. N'hésitez pas à revenir vers nous. Là, c'est 40 ans d'expérience qui vont être en fait vraiment mis à profit auprès des personnes et surtout en particulier des thérapeutes et des médecins, puisque ça va être un séminaire pour thérapeutes et médecins où vraiment toute l'expérience de la cancérologie appliquée dans le cadre de l'aromathérapie.
Bien, rendez-vous le 18 février. Toutes les informations sont sur le site de l'Institut d'IURTH. Voilà. Merci donc Cindy, Fatia et Myriam, la nouvelle génération de naturopathes, d'être venues avec nous. Karima, on vous retrouve la semaine prochaine.
Avec beaucoup de plaisir.
Alors, pour les retrouver, ces naturopathes, c'est important. Sur le site de l'Institut, vous aurez donc à partir de lundi un annuaire. Vous pourrez donc aller à leur rencontre. Et ce sont des personnes exceptionnelles, des personnes qui ont vraiment un domaine de prédilection, qu'ils ont affiné et vraiment, comment on pourrait dire ça, termine le mot, ils sont...
excellents, et voilà, simplement, excellent. Dans l'excellence. Voilà, quoi.
Excellent. Et ce qu'on a retenu de cette émission, c'est qu'on ne sait pas si les carottes et les pommes de terre sont bonnes pour la santé, mais en tout cas,
j'ai pas voulu mouiller, moi.
Au goût, c'est bon.
Pour le, oui. Pour le savoir, ouais. www.ieerth.fr.
Bien, allez, demain, le docteur Delabo sera là. Très belle journée sur BeurFM.